Albertine disparue, chapitre 2, suite 2. Cependant, quand Swann fut mort, il arriva que la décision de ne pas recevoir sa fille avait fini de donner à Madame de Guermantes toutes les satisfactions d'orgueil, d'indépendance, de self-government, de persécution qu'elle était susceptible d'en tirer, et auxquelles avait mis fin la disparition de l'être qui lui donnait la sensation délicieuse qu'elle lui résistait, qu'il ne parvenait pas à lui faire rapporter ses décrets. Alors, la duchesse avait passé à la promulgation d'autres décrets qui, s'appliquant à des vivants, pussent lui faire sentir qu'elle était maîtresse de faire ce qui bon lui semblait. Elle ne pensait pas à la petite Swann, mais quand on lui parlait d'elle, la duchesse ressentait une curiosité, comme d'un endroit nouveau, qui ne venait plus lui masquer à elle-même le désir de résister à la prétention de Swann. D'ailleurs, tant de sentiments différents peuvent contribuer à en former un seul, qu'on ne saurait pas dire s'il n'y avait pas quelque chose d'affectueux pour Swann dans cet intérêt. Sans doute, car à tous les étages de la société, une vie mondaine et frivole paralyse la sensibilité et ôte le pouvoir de ressusciter les morts. La duchesse était de celles qui ont besoin de la présence, de cette présence qu'en vraie guermante, elle excellait à prolonger, pour aimer vraiment, mais aussi, chose plus rare, pour détester un peu. De sorte que souvent, ces bons sentiments pour les gens, suspendus de leur vivant par l'irritation que tels ou tels de leurs actes lui causaient, renaissaient après leur mort. Elle avait presque alors un désir de réparation, parce qu'elle ne les imaginait plus, très vaguement d'ailleurs, qu'avec leurs qualités et dépourvues des petites satisfactions, des petites prétentions qui l'agaçaient en eux quand ils vivaient. Cela donnait parfois, malgré la frivolité de Madame de Guermantes, quelque chose d'assez noble, mêlé à beaucoup de bassesse, à sa conduite. Tandis que les trois quarts des humains flattent les vivants et ne tiennent plus aucun compte des morts, elle faisait souvent, après leur mort, ce qu'aurait désiré ce qu'elle avait maltraité, vivant. Quant à Gilberte, toutes les personnes qu'il aimait et avaient un peu d'amour-propre pour elle n'eussent pu se réjouir du changement de disposition de la duchesse à son égard, qu'en pensant que Gilberte, en repoussant dédaigneusement des avances qui venaient après 25 ans d'outrage, dut enfin venger ceci. Malheureusement, les réflexes moraux ne sont pas toujours identiques à ce que le bon sens imagine. Tel qui, par une injure mal à propos, a cru perdre à tout jamais ses ambitions auprès d'une personne à qui il tient les sauve au contraire par là. Gilberte, assez indifférente aux personnes qui étaient aimables pour elle, ne cessait de penser avec admiration à l'insolente Madame de Guermantes, à se demander les raisons de cette insolence. Même une fois, ce qui eût fait mourir de honte pour elle tous les gens qui lui témoignaient un peu d'amitié, elle avait voulu écrire à la duchesse pour lui demander ce qu'elle avait contre une jeune fille qui ne lui avait rien fait. Les Guermantes avaient pris à ses yeux des proportions que leur noblesse eût été impuissante à leur donner. Elle les mettait au-dessus non seulement de toute la noblesse, mais même de toutes les familles royales. D'anciennes amies de Swann s'occupaient beaucoup de Gilberte. Quand on apprit dans l'aristocratie le dernier héritage qu'elle venait de faire, on commença à remarquer combien elle était bien élevée et quelle femme charmante elle ferait. On prétendait qu'une cousine de Madame de Guermantes, la princesse de Nièvre, pensait à Gilberte pour son fils. Madame de Guermantes détestait Madame de Nièvre. Elle dit qu'un tel mariage serait un scandale. Madame de Nièvre, effrayée, assura qu'elle n'y avait jamais pensé. Un jour, après déjeuner, Comme il faisait beau et que monsieur de Guermantes devait sortir avec sa femme, madame de Guermantes arrangeait son chapeau dans la glace. Ses yeux bleus se regardaient eux-mêmes et regardaient ses cheveux encore blonds. La femme de chambre tenait à la main diverses ombrelles entre lesquelles sa maîtresse choisirait. Le soleil entrait à flots par la fenêtre, et ils avaient décidé de profiter de la belle journée pour aller faire une visite à Saint-Cloud. Et monsieur de Guermantes, tout prêt, en gants gris-perle et le tube sur la tête, se disait « Oriane est vraiment encore étonnante, je la trouve délicieuse !» Et voyant que sa femme avait l'air bien disposée, « À propos, dit-il, j'avais une commission à vous faire de madame de Virelef. Elle voulait vous demander de venir lundi à l'opéra. Mais comme elle a la petite Swann, elle n'osait pas et m'a prié de tâter le terrain. Je n'émets aucun avis, je vous transmets tout simplement. Mon Dieu, il me semble que nous pourrions... » ajouta-t-il évasivement, car leur disposition à l'égard d'une personne étant une disposition collective et naissant identique en chacun d'eux, il savait par lui-même que l'hostilité de sa femme à l'égard de mademoiselle Swann était tombée et qu'elle était curieuse de la connaître. Madame de Guermantes acheva d'arranger son voile et choisit une ombrelle. « Mais comme vous voudrez, que voulez-vous que ça me fasse? Je ne vois aucun inconvénient à ce que nous connaissions cette petite. Vous savez bien que je n'ai jamais rien eu contre elle. Simplement, je ne voulais pas que nous ayons l'air de recevoir les faux ménages de mes amis. Voilà tout. » « Et vous aviez parfaitement raison, répondit le duc. Vous êtes la sagesse même, madame. Et vous êtes de plus ravissante avec ce chapeau. « Vous êtes fort aimable, » dit madame de Guermantes en souriant à son mari et en se dirigeant vers la porte. Mais avant de monter en voiture, elle tint à lui donner encore quelques explications. « Maintenant, il y a beaucoup de gens qui voient la mer. D'ailleurs, elle a le bon esprit d'être malade les trois quarts de l'année. Il paraît que la petite est très gentille. Tout le monde sait que nous aimions beaucoup Swann. On trouvera cela tout naturel. » Et ils partirent ensemble pour Saint-Cloud. Un mois après, la petite Swann, qui ne s'appelait pas encore Forcheville, déjeunait chez les Guermantes. On parla de mille choses. À la fin du déjeuner, Gilberte dit timidement « Je crois que vous avez très bien connu mon père. » « Mais je crois bien. » dit madame de Guermantes sur un ton mélancolique qui prouvait qu'elle comprenait le chagrin de la fille et avec un excès d'intensité voulue qui lui donnait l'air de dissimuler qu'elle n'était pas sûre de se rappeler très exactement le père. « Nous l'avons très bien connu, je me le rappelle très bien. » Et elle pouvait se le rappeler en effet, il était venu la voir presque tous les jours pendant 25 ans. « Je sais très bien qui c'était, je vais vous dire, » ajouta-t-elle comme si elle avait voulu expliquer à la fille qui elle avait eu pour père et donner à cette jeune fille des renseignements sur lui. « C'était un grand ami à ma belle-mère, et aussi il était très lié avec mon beau-frère Palamède. Il venait aussi ici, il déjeunait même ici, » ajouta monsieur de Guermantes, par ostentation de modestie et scrupule d'exactitude. « Vous vous rappelez, Oriane? Quel brave homme que votre père! Comme on sentait qu'il devait être d'une famille honnête! Du reste, j'ai aperçu autrefois son père et sa mère. Eux et lui, quelles bonnes gens !» On sentait que s'ils avaient été, les parents et le fils, encore en vie, le duc de Guermantes n'eut pas eu d'hésitation à les recommander pour une place de jardinier. Et voilà comment le faubourg Saint-Germain parle à tout bourgeois des autres bourgeois, soit pour le flatter de l'exception faite, le temps qu'on cause, en faveur de l'interlocuteur ou de l'interlocutrice, soit plutôt, et en même temps, pour l'humilier. C'est ainsi qu'un antisémite dit à un juif, dans le moment même où il le couvre de son affabilité, du mal des Juifs, d'une façon générale qui permette d'être blessant, sans être grossier. Mais sachant vraiment vous combler quand elle vous voyait, ne pouvant alors se résoudre à vous laisser partir, Madame de Guermantes était aussi l'esclave de ce besoin de la présence. Swann avait pu parfois, dans l'ivresse de la conversation, donner à la duchesse l'illusion qu'elle avait de l'amitié pour lui. Il ne le pouvait plus. « Il était charmant, » dit la duchesse avec un sourire triste, en posant sur Gilberte un regard très doux, qui, à tout hasard, pour le cas où cette jeune fille serait sensible, lui montrerait qu'elle était comprise, et que Madame de Guermantes, si elle se fût trouvée seule avec elle, et si les circonstances l'eussent permis, eût aimé lui dévoiler toute la profondeur de sa sensibilité. Mais Monsieur de Guermantes, soit qu'il pensât précisément que les circonstances s'opposaient à de telles effusions, soit qu'il considéra que toute exagération de sentiments était l'affaire des femmes et que les hommes n'avaient pas plus à y voir que dans leurs autres attributions, sauf la cuisine et les vins qu'ils s'étaient réservés, y ayant plus de lumière que la duchesse, crut bien faire de ne pas alimenter, en s'y mêlant, cette conversation qu'il écoutait avec une visible impatience. Du reste, Madame de Guermantes, cet accès de sensibilité passé, ajouta avec une frivolité mondaine en s'adressant à Gilberte. « Tenez, c'était non seulement un grand ami à mon beau-frère Charlus, mais aussi il était très ami avec Voisenon, le château du prince de Guermantes. Comme si le fait de connaître Monsieur de Charlus et le prince avait été pour Swann un hasard, comme si le beau-frère et le cousin de la duchesse avaient été deux hommes avec qui Swann se fût trouvé lié dans une certaine circonstance, alors que Swann était lié avec tous les gens de cette même société, et comme si Madame de Guermantes avait voulu faire comprendre à Gilberte, qui était à peu près son père, le lui situer par un de ces traits caractéristiques à l'aide desquels, quand on veut expliquer comment on se trouve en relation avec quelqu'un qu'on n'aurait pas à connaître, ou pour singulariser son récit, on invoque le parrainage particulier d'une certaine personne. Quant à Gilberte, elle fut d'autant plus heureuse de voir tomber la conversation qu'elle ne cherchait précisément qu'à en changer, ayant hérité de Swann son tact exquis avec un charme d'intelligence que reconnurent et goûtèrent le duc et la duchesse, qui demandèrent à Gilberte de revenir bientôt. D'ailleurs, avec la minutie des gens dont la vie est sans but, tour à tour ils s'apercevaient, chez les gens avec qui ils se liaient, des qualités les plus simples, s'exclamant devant elles avec l'émerveillement naïf d'un citadin qui fait à la campagne la découverte d'un brin d'herbe, ou, au contraire, grossissant comme avec un microscope, commentant sans fin, prenant en grippe les moindres défauts, et souvent tour à tour chez une même personne. Pour Gilberte, ce furent d'abord ses agréments, sur lesquels s'exerça la perspicacité oisive de Monsieur et de Madame de Guermantes. « Avez-vous remarqué la manière dont elle dit certains mots ?» dit après son départ la duchesse à son mari. « C'était bien du Swann, je croyais l'entendre. »«
J'allais faire la même remarque que vous, Oriane. »«
Elle est spirituelle, c'est tout à fait le tour de son père. »«
Je trouve qu'elle lui est même très supérieure. Rappelez-vous comme elle a bien raconté cette histoire de bain de mer. Elle a un brio que Swann n'avait pas. »
« Oh, il était pourtant bien spirituel !»«
Mais je ne dis pas qu'il n'était pas spirituel, je dis qu'il n'avait pas de brio !»
dit Monsieur de Guermantes d'un ton gémissant, car sa goutte le rendait nerveux, et quand il n'avait personne d'autre à qui témoigner son agacement, c'est à la duchesse qu'il le manifestait. Mais incapable d'en bien comprendre les causes, il préférait prendre un air incompris. Ces bonnes dispositions du duc et de la duchesse firent que dorénavant on eût au besoin dit quelquefois à Gilberte un « votre pauvre père » qui ne put d'ailleurs servir,
Forcheville ayant précisément vers cette époque adopté la jeune fille. Elle disait « mon père » à Forcheville, charmait les douairières par sa politesse et sa distinction, et on reconnaissait que, si Forcheville s'était admirablement conduite avec elle, la petite avait beaucoup de cœur et savait l'en récompenser. Sans doute parce qu'elle pouvait parfois et désirait montrer beaucoup d'aisance, elle s'était fait reconnaître par moi, et devant moi avait parlé de son véritable père. Mais c'était une exception, et on n'osait plus devant elle prononcer le nom de Swann. Justement, je venais de remarquer dans le salon deux dessins d'Elstir, qui autrefois étaient relégués dans un cabinet d'en haut où je ne les avais vus que par hasard. Elstir était maintenant à la mode. Madame de Guermantes ne se consolait pas d'avoir donné tant de tableaux de lui à sa cousine, non parce qu'ils étaient à la mode, mais parce qu'elle les goûtait maintenant. La mode est faite en effet de l'engouement d'un ensemble de gens dont les Guermantes sont représentatifs. Mais elle ne pouvait songer à acheter d'autres tableaux de lui, car ils étaient montés depuis quelque temps à des prix follement élevés. Elle voulait au moins avoir quelque chose d'Elstir dans son salon, et y avait fait descendre ses deux dessins qu'elle déclarait préférer à sa peinture. Gilberte reconnut cette facture. « On dirait des Elstir, » dit-elle. « Mais oui, » répondit étourdiment la duchesse. « C'est précisément votre... ce sont de nos amis qui nous les ont fait acheter. C'est admirable. À mon avis, c'est supérieur à sa peinture. » Moi qui n'avais pas entendu ce dialogue, j'allais regarder le dessin. « Tiens, c'est l'Elstir que... » Je vis les signes désespérés de Madame de Guermantes. « Ah oui, l'Elstir que j'admirais en haut. Il est bien mieux que dans ce couloir. À propos d'Elstir, je l'ai nommé hier dans un article du Figaro. Est-ce que vous l'avez lu ?»« Vous avez écrit un article dans le Figaro ?» s'écria Monsieur de Guermantes avec la même violence que s'il s'était écrié « Mais c'est ma cousine !»« Oui, hier. » « Dans le Figaro, vous êtes sûr ? Cela m'étonnerait bien, car nous avons chacun notre Figaro, et s'il avait échappé à l'un de nous, l'autre l'aurait vu. N'est-ce pas, Oriane ? Il n'y avait rien. » Le duc fit chercher le Figaro et se rendit à l'évidence, comme si, jusque-là, il y eût eu plutôt chance que j'eusse fait erreur sur le journal où j'avais écrit. « Quoi ? Je ne comprends pas. Alors vous avez fait un article dans le Figaro ?» me dit la duchesse, faisant effort pour parler d'une chose qui ne l'intéressait pas. « Mais voyons, Bazin, vous lirez cela plus tard. »« Mais non, le duc est très bien comme cela avec sa grande barbe sur le journal, » dit Gilberte. « Je vais lire cela tout de suite en rentrant. »« Oui, il porte la barbe maintenant que tout le monde est rasé, » dit la duchesse. Il ne fait jamais rien comme personne. Quand nous nous sommes mariés, il se rasait non seulement la barbe, mais la moustache. Les paysans qui ne le connaissaient pas ne croyaient pas qu'il était français. Il s'appelait à ce moment le prince des Laumes. Est-ce qu'il y a encore un prince des Laumes ? Demanda Gilberte, qui était intéressée par tout ce qui touchait des gens qui n'avaient pas voulu lui dire bonjour pendant si longtemps. Mais non ! Répondit avec un regard mélancolique et caressant la duchesse. Un si joli titre, un des plus beaux titres français, dit Gilberte. Un certain ordre de banalité venant inévitablement, comme leur sonne, dans la bouche de certaines personnes intelligentes. Eh bien oui, je regrette aussi. Bazin voudrait que le fils de sa sœur le relevât. Mais ce n'est pas la même chose. Au fond, ça pourrait être, parce que ce n'est pas forcément le fils aîné. Cela peut passer de l'aîné au cadet. Je vous disais que Bazin était alors tout rasé. Un jour, à un pèlerinage, vous rappelez-vous, mon petit, dit-elle à son mari, à ce pèlerinage à Paray-le-Monial, mon beau-frère Charlu, qui aime assez causer avec les paysans, disait à l'un, à l'autre, D'où es-tu, toi ? Et comme il est très généreux, il leur donnait quelque chose, les emmenait boire. Car personne n'est à la fois plus simple et plus haut que Mémé. Vous le verrez ne pas vouloir saluer une duchesse qu'il ne trouve pas assez duchesse et combler un valet de chien. Alors je dis à Bazin, « Voyons, Bazin, parlez-leur un peu aussi. » Mon mari, qui n'est pas toujours très inventif. « Merci, Oriane, » dit le duc sans s'interrompre de la lecture de mon article où il était plongé. Avisa un paysan et lui répéta textuellement la question de son frère. « Et toi, d'où es-tu ? »
« Je suis des Laumes. »«
Tu es des Laumes ? Eh bien, je suis ton prince. » Alors le paysan regarda la figure toute glabre de Bazin et lui répondit « Pas vrai, vous, vous êtes un Angliche. »
On voyait ainsi dans ces petits récits de la duchesse ces grands titres éminents, comme celui de prince des Laumes, surgir à leur place vraie, dans leur état ancien et leur couleur locale, comme dans certains livres d'heures on reconnaît, au milieu de la foule de l'époque, la flèche de Bourges. On apporta des cartes qu'un valet de pied venait de déposer.
« Je ne sais pas ce qui lui prend, je ne la connais pas. C'est à vous que je dois ça, Bazin. Ça ne vous a pourtant pas si bien réussi, ce genre de relation, mon pauvre ami. »
Et se tournant vers Gilberte,
« Je ne saurais même pas vous expliquer qui c'est. Vous ne la connaissez certainement pas. Elle s'appelle Lady Rufus Israël. »
Gilberte rougit vivement.
« Je ne la connais pas, » dit-elle.
Ce qui était d'autant plus faux que Lady Israël s'était, 2 ans avant la mort de Swann, réconciliée avec lui et qu'elle appelait Gilberte par son prénom.
« Mais je sais très bien, par d'autres, qui est la personne que vous voulez dire. »
C'est que Gilberte était devenue très snob. C'est ainsi qu'une jeune fille ayant un jour, soit méchamment, soit maladroitement, demandé quel était le nom de son père, non pas adoptif mais véritable, dans son trouble et pour dénaturer un peu ce qu'elle avait à dire, elle avait prononcé au lieu de « Swann » « Svan », changement qu'elle s'aperçut un peu après être péjoratif, puisque cela faisait de ce nom d'origine anglaise un nom allemand. Et même elle avait ajouté, s'avilissant pour se rehausser, « On a raconté beaucoup de choses très différentes sur ma naissance. Moi, je dois tout ignorer. » Si honteuse que Gilberte dût être à certains instants, en pensant à ses parents, car même Madame Swann représentait pour elle et était une bonne mère, d'une pareille façon d'envisager la vie, il faut malheureusement penser que les éléments en étaient sans doute empruntés à ses parents, car nous ne nous faisons pas de toutes pièces nous-mêmes. Mais à une certaine somme d'égoïsme qui existe chez la mère, un égoïsme différent, inhérent à la famille du père, vient s'ajouter, ce qui ne veut pas toujours dire s'additionner, ni même justement servir de multiple, mais créer un égoïsme nouveau, infiniment plus puissant et redoutable. Et depuis le temps que le monde dure, que des familles où existe tel défaut sous une forme, s'allie à des familles où le même défaut existe sous une autre, ce qui crée une variété particulièrement complexe et détestable chez l'enfant. Les égoïsmes accumulés, pour ne parler ici que de l'égoïsme, prendraient une puissance telle que l'humanité entière serait détruite, si du mal même ne naissait, capable de le ramener à de justes proportions, des restrictions naturelles analogues à celles qui empêchent la prolifération infinie des infusoires d'anéantir notre planète, la fécondation unisexuée des plantes d'amener l'extinction du règne végétal, etc. De temps à autre, une vertu vient composer avec cet égoïsme une puissance nouvelle et désintéressée. Les combinaisons par lesquelles, au cours des générations,
La chimie morale fixe ainsi et rend inoffensifs les éléments qui devenaient trop redoutables sont infinis et donneraient une passionnante variété à l'histoire des familles. D'ailleurs, avec ces égoïsmes accumulés, comme il devait y en avoir en Gilberte, coexiste telle vertu charmante des parents. Elle vient un moment faire toute seule un intermède, jouer son rôle touchant avec une sincérité complète. Sans doute, Gilberte n'allait pas toujours aussi loin que quand elle insinuait qu'elle était peut-être la fille naturelle de quelque grand personnage, mais elle dissimulait le plus souvent ses origines. Peut-être lui était-il simplement trop désagréable de les confesser, et préférait-elle qu'on les apprît par d'autres. Peut-être croyait-elle vraiment les cacher, de cette croyance incertaine qui n'est pourtant pas le doute, qui réserve une possibilité à ce qu'on souhaite, et dont Musset donne un exemple quand il parle de l'espoir en Dieu.
« Je ne la connais pas personnellement, » reprit Gilberte.
Avait-elle pourtant, en se faisant appeler Mademoiselle de Forcheville, l'espoir qu'on ignorât qu'elle était la fille de Swann ? Peut-être, pour certaines personnes qu'elle espérait devenir, avec le temps, presque tout le monde. Elle ne devait pas se faire de grandes illusions sur leur nombre actuel. Elle ne devait pas se faire de grandes illusions sur leur nombre actuel, et elle savait sans doute que bien des gens devaient chuchoter « C'est la fille de Swann ». Mais elle ne le savait que de cette même science qui nous parle de gens se tuant par misère pendant que nous allons au bal, c'est-à-dire une science lointaine et vague, à laquelle nous ne tenons pas à substituer une connaissance plus précise, due à une impression directe. Gilberte appartenait, ou du moins appartint, pendant ces années-là, à la variété la plus répandue des autruches humaines. Celles qui cachent leur tête dans l'espoir, non de ne pas être vues, ce qu'elles croient peu vraisemblable, mais de ne pas voir qu'on les voit, ce qui leur paraît déjà beaucoup et leur permet de s'en remettre à la chance pour le reste. Comme l'éloignement rend les choses plus petites, plus incertaines, moins dangereuses, Gilberte préférait ne pas être près des personnes au moment où celle-ci faisait la découverte qu'elle était née Swann. Et comme on est près des personnes qu'on se représente, comme on peut se représenter les gens lisant leur journal, Gilberte préférait que les journaux l'appelassent Mademoiselle de Forcheville. Il est vrai que pour les écrits dont elle avait elle-même la responsabilité, ses lettres, elle ménagea quelque temps la transition en signant G. S. Forcheville. La véritable hypocrisie dans cette signature était manifestée par la suppression bien moins des autres lettres du nom de Swann que de celle du nom de Gilberte. En effet, en réduisant le prénom innocent à un simple G, Mademoiselle de Forcheville semblait insinuer à ses amis que la même amputation appliquée au nom de Swann n'était due aussi qu'à des motifs d'abréviation. Même elle donnait une importance particulière à l'S, et en faisant une sorte de longue queue qui venait barrer le G, mais qu'on sentait transitoire et destinée à disparaître, comme celle qui, encore longue chez le singe, n'existe plus chez l'homme. Malgré cela, dans son snobisme, il y avait de l'intelligente curiosité de Swann. Je me souviens que cet après-midi-là, elle demanda à Madame de Guermantes si elle ne pouvait pas connaître Monsieur du Lot. Et la duchesse ayant répondu qu'il était souffrant et ne sortait pas, Gilberte demanda comment il était. « Car, » ajouta-t-elle en rougissant légèrement, « elle en avait beaucoup entendu parler. » Le marquis du Lot avait été, en effet, un des amis les plus intimes de Swann avant le mariage de celui-ci. Et peut-être même Gilberte l'avait-elle entrevue, mais à un moment où elle ne s'intéressait pas à cette société. Est-ce que Monsieur de Bréauté ou le prince d'Agrigente peuvent m'en donner une idée ? Demanda-t-elle.
Oh, pas du tout,
s'écria madame de Guermantes, qui avait un sentiment vif de ces différences provinciales et faisait des portraits sobres, mais colorés par sa voix dorée et rauque, sous le doux fleurissement de ses yeux de violette. « Non, pas du tout. Dulot, c'était le gentilhomme du Périgord, charmant, avec toutes les belles manières et le sans-gêne de sa province. À Guermantes, quand il y avait le roi d'Angleterre, avec qui Dulot était très ami, il y avait après la chasse un goûter. C'était l'heure où Dulot avait l'habitude d'aller ôter ses bottines et mettre de gros chaussons de laine. Eh bien, la présence du roi Édouard et de tous les grands-ducs ne le gênait en rien. Il descendait dans le grand salon de Guermantes avec ses chaussons de laine. Il trouvait qu'il était le marquis du Lot d'Olemans, qui n'avait en rien à se contraindre pour le roi d'Angleterre. Lui et ce charmant Quasimodo de Breteuil, c'étaient les deux que j'aimais le plus. C'étaient du reste des grands amis à... Elle allait dire à votre père et s'arrêta net. Non, ça n'a aucun rapport, ni avec Gris-Gris, ni avec Bréauté. C'est le vrai grand seigneur du Périgord. Du reste, Mémé cite une page de Saint-Simon sur un marquis d'Olemans. C'est tout à fait ça. Je citais les premiers mots du portrait. Monsieur d'Olemans, qui était un homme fort distingué parmi la noblesse du Périgord, par la sienne et par son mérite, et y était considéré par tous ceux qui y vivaient comme un arbitre général à qui chacun avait recours pour sa probité, sa capacité et la douceur de ses manières, et comme un coq de province. « Oui, il y a de cela, » dit madame de Guermantes, « d'autant que Dulot a toujours été rouge comme un coq. » « Oui, je me rappelle avoir entendu citer ce portrait, » dit Gilberte, sans ajouter que c'était par son père, lequel était, en effet, grand admirateur de Saint-Simon. Elle aimait aussi parler du prince d'Agrigente et de monsieur de Bréauté pour une autre raison. Le prince d'Agrigente l'était par héritage de la maison d'Aragon, mais sa seigneurie était poitevine. Quant à son château, celui du moins où il résidait, ce n'était pas un château de sa famille, mais de la famille d'un premier mari de sa mère. Et il était situé à peu près à égale distance de Martainville et de Guermantes. Aussi, Gilberte parlait-elle de lui et de monsieur de Bréauté comme de voisins de campagne qui lui rappelaient sa vieille province. Matériellement, il y avait une part de mensonge dans ses paroles, puisque ce n'est qu'à Paris, par la comtesse Molé, qu'elle avait connu monsieur de Bréauté, d'ailleurs vieil ami de son père. Quant au plaisir de parler des environs de Tansonville, il pouvait être sincère. Le snobisme est pour certaines personnes analogue à ces breuvages agréables auxquels elles mêlent des substances utiles. Gilberte s'intéressait à telle femme élégante parce qu'elle avait de superbes livres et des natiers que mon ancienne amie n'eût sans doute pas été voir à la Bibliothèque nationale et au Louvre. Et je me figure que, malgré la proximité plus grande encore, l'influence attrayante de Tansonville se fut moins exercée pour Gilberte sur madame Sazerat ou madame Goupil que sur monsieur d'Agrigente. « Oh, pauvre Bébelle et pauvre Gris-Gris !» dit madame de Guermantes. « Ils sont bien plus malades que Dulot. Je crains qu'il n'en ait pas pour longtemps, ni l'un ni l'autre. » Quand monsieur de Guermantes eut terminé la lecture de mon article, il m'adressa des compliments, d'ailleurs mitigés. Il regrettait la forme un peu poncive de ce style où il y avait... de l'emphase, des métaphores comme dans la prose démodée de Chateaubriand. Par contre, il me félicita sans réserve de m'occuper. J'aime qu'on fasse quelque chose de ces 10 doigts, mais je n'aime pas les inutiles qui sont toujours des importants ou des agités. Sotte engeance. Gilberte, qui prenait avec une rapidité extrême les manières du monde, déclara combien elle allait être fière de dire qu'elle était l'amie d'un auteur.
Vous pensez si je vais dire que j'ai le plaisir, l'honneur de vous connaître.
Vous ne voulez pas venir avec nous demain à l'opéra comique ?
Me dit la duchesse.
Et je pensais que c'était sans doute dans cette même baignoire où je l'avais vue la première fois et qui m'avait semblé alors inaccessible, comme le royaume sous-marin des Néréides. Mais je répondis d'une voix triste, « Non, je ne vais pas au théâtre. J'ai perdu une amie que j'aimais beaucoup. »
J'avais presque les larmes aux yeux en le disant. Mais pourtant, pour la première fois, cela me faisait un certain plaisir d'en parler. C'est à partir de ce moment-là que je commençais à écrire à tout le monde que je venais d'avoir un grand chagrin et à cesser de le ressentir.
Et quand Gilberte fut partie, Madame de Guermantes me dit « Vous n'avez pas compris mes signes, c'était pour que vous ne parliez pas de Swann. »
Et comme je m'excusais, « Mais je vous comprends très bien, moi-même j'ai failli le nommer, je n'ai eu que le temps de me rattraper. C'est épouvantable. Heureusement que je me suis arrêtée à temps. Vous savez que c'est très gênant. »
dit-elle à son mari pour diminuer un peu ma faute, en ayant l'air de croire que j'avais obéi à une propension commune à tous et à laquelle il était difficile de résister.
« Que voulez-vous que j'y fasse ? » répondit le duc. « Vous n'avez qu'à dire qu'on remette ces dessins en haut puisqu'ils vous font penser à Swann. Si vous ne pensez pas à Swann, vous ne parlerez pas de lui. »
Le lendemain, je reçus deux lettres de félicitations qui m'étonnèrent beaucoup. L'une de Madame Goupil, que je n'avais pas revue depuis tant d'années, et à qui, même à Combray, je n'avais pas trois fois adressé la parole. Un cabinet de lecture lui avait communiqué le Figaro. Ainsi, quand quelque chose vous arrive dans la vie qui retentit un peu, des nouvelles nous viennent de personnes situées si loin de nos relations et dont le souvenir est déjà si ancien que ces personnes semblent situées à une grande distance, surtout dans le sens de la profondeur. Une amitié de collège oubliée, et qui avait 20 occasions de se rappeler à vous, vous donne signe de vie, non sans compensation d'ailleurs. C'est ainsi que Bloch, dont j'eus tant aimé savoir ce qu'il pensait de mon article, ne m'écrivit pas. Il est vrai qu'il avait lu cet article et devait me l'avouer plus tard, mais par un choc en retour. En effet, il écrivit lui-même quelques années plus tard un article dans le Figaro et désira me signaler immédiatement cet événement. Comme il cessait d'être jaloux de ce qu'il considérait comme un privilège, puisqu'il lui était aussi échu, l'envie qui lui avait fait feindre d'ignorer mon article cessait, comme un compresseur se soulève. Il m'en parla, mais tout autrement qu'il ne désirait m'entendre parler du sien. « J'ai su que toi aussi, me dit-il, avais fait un article, mais je n'avais pas cru devoir t'en parler, craignant de t'être désagréable, car on ne doit pas parler à ses amis des choses humiliantes qui leur arrivent. Et c'en est une, évidemment, que d'écrire dans le journal du Sabre et du Goupillon, des failles vos cloques. Sans oublier le bénitier. »
Son caractère restait le même, mais son style était devenu moins précieux, comme il arrive à certains écrivains qui quittent le maniérisme quand, ne faisant plus de poèmes symbolistes, ils écrivent des romans feuilletons. Pour me consoler de son silence, je relus la lettre de Madame Goupil. Mais elle était sans chaleur, car si l'aristocratie a certaines formules qui font palissade entre elles, entre le « monsieur » du début et les sentiments distingués de la fin, des cris de joie, d'admiration peuvent jaillir comme des fleurs et des gerbes penchées par-dessus la palissade leur parfum odorant. Mais le conventionnalisme bourgeois enserre l'intérieur même des lettres dans un réseau de « votre succès si légitime, au maximum, votre beau succès. » Des belles-sœurs fidèles à l'éducation reçue et réservées dans leur corsage comme il faut, croient s'être épanchées dans le malheur et l'enthousiasme si elles ont écrit « mes meilleures pensées ». Mère se joint à moi est un superlatif dont on est rarement gâté. Je reçus une autre lettre que celle de Madame Goupil, mais le nom du signataire m'était inconnu. C'était une écriture populaire, un langage charmant. Je fus navré de ne pouvoir découvrir qui m'avait écrit. Comme je me demandais si Bergotte eût aimé cet article, Madame de Forcheville m'avait répondu qu'il l'aurait infiniment admiré et n'aurait pu le lire sans envie. Mais elle me l'avait dit pendant que je dormais. C'était un rêve. Presque tous nos rêves répondent ainsi aux questions que nous nous posons par des affirmations complexes, des mises en scène à plusieurs personnages, mais qui n'ont pas de lendemain. Quant à Mademoiselle de Forcheville, je ne pouvais m'empêcher de penser à elle avec désolation. Quoi ? Fille de Swann, qui eût tant aimé la voir chez les Guermantes, que ceux-ci avaient refusé à leur grand ami de recevoir. Ils l'avaient ensuite spontanément recherchée, le temps ayant passé qui renouvelle tout pour nous, insuffle une autre personnalité, d'après ce qu'on dit d'eux, aux êtres que nous n'avons pas vus depuis longtemps, depuis que nous avons fait nous-mêmes peau neuve et pris d'autres goûts. Je pensais qu'à cette fille Swann, il disait parfois, en la serrant contre lui et en l'embrassant, « C'est bon, ma chérie, d'avoir une fille comme toi. Un jour, quand je ne serai plus là, si on parle encore de ton pauvre papa, ce sera seulement avec toi et à cause de toi. » Swann, en mettant ainsi, pour après sa mort, un craintif et anxieux espoir de survivance dans sa fille, se trompait autant que le vieux banquier, qui, ayant fait un testament pour une petite danseuse qu'il entretient et qui a très bonne tenue, se dit qu'il n'est pour elle qu'un grand ami, mais qu'elle restera fidèle à son souvenir. Elle avait très bonne tenue tout en faisant du pied sous la table aux amis du vieux banquier qui lui plaisait, mais tout cela très caché, avec d'excellents dehors. Elle portera le deuil de l'excellent homme, s'en sentira débarrassée, profitera non seulement de l'argent liquide, mais des propriétés, des automobiles qu'il lui a laissées, fera partout effacer le chiffre de l'ancien propriétaire, qui lui cause un peu de honte, et à la jouissance du don, n'associera jamais le regret du donateur. Les illusions de l'amour paternel ne sont peut-être pas moindres que celles de l'autre. Bien des filles ne considèrent leur père que comme le vieillard qui leur laisse sa fortune. La présence de Gilberte dans un salon, au lieu d'être une occasion qu'on parlât encore quelquefois de son père, était un obstacle à ce qu'on saisît celle de plus en plus rare qu'on aurait pu avoir encore de le faire. Même à propos des mots qu'il avait dits, des objets qu'il avait donnés, on prit l'habitude de ne plus le nommer. Et celle qui aurait dû rajeunir, sinon perpétuer sa mémoire, se trouva hâtée et consommée l'œuvre de la mort et de l'oubli. Et ce n'est pas seulement à l'égard de Swann que Gilberte consommait peu à peu l'œuvre de l'oubli. Elle avait hâté en moi cette œuvre de l'oubli à l'égard d'Albertine. Sous l'action du désir, par conséquent du désir de bonheur que Gilberte avait excité en moi pendant les quelques heures où je l'avais cru une autre, un certain nombre de souffrances, de préoccupations douloureuses, lesquelles il y a peu de temps encore obsédaient ma pensée, s'étaient échappées de moi, entraînant avec elles tout un bloc de souvenirs, probablement effrité depuis longtemps et précaire, relatifs à Albertine. Car, si bien des souvenirs qui étaient reliés à elle avaient d'abord contribué à maintenir en moi le regret de sa mort, en retour, le regret lui-même avait fixé les souvenirs. De sorte que la modification de mon état sentimental, préparée sans doute obscurément jour par jour par les désagrégations continues de l'oubli, mais réalisée brusquement dans son ensemble, me donna cette impression que je me rappelle avoir éprouvée ce jour-là pour la première fois, du vide, de la suppression en moi de toute une portion de mes associations d'idées, qu'éprouve un homme dont une artère cérébrale, depuis longtemps usée, s'est rompue, et chez lequel toute une partie de la mémoire est abolie ou paralysée. La disparition de ma souffrance, et de tout ce qu'elle emmenait avec elle, me laissait diminuer, comme souvent la guérison d'une maladie qui tenait dans notre vie une grande place. Sans doute, c'est parce que les souvenirs ne restent pas toujours vrais que l'amour n'est pas éternel, et parce que la vie est faite du perpétuel renouvellement des cellules. Mais ce renouvellement, pour les souvenirs, est tout de même retardé par l'attention qui arrête et fixe un moment qui doit changer. Et puisqu'il en est du chagrin comme du désir des femmes, qu'on grandit en y pensant, avoir beaucoup à faire rendrait plus facile, aussi bien que la chasteté, l'oubli. Par une autre réaction, bien que ce fût la distraction, le désir de Mademoiselle des Porcheville, qui m'eût rendu tout d'un coup l'oubli apparent et sensible, s'il reste que c'est le temps qui amène progressivement l'oubli, l'oubli n'est pas sans altérer profondément la notion du temps. Il y a des erreurs optiques dans le temps, comme il y en a dans l'espace. La persistance en moi d'une velléité ancienne de travailler, de réparer le temps perdu, de changer de vie, ou plutôt de commencer de vivre, me donnait l'illusion que j'étais toujours aussi jeune. Pourtant, le souvenir de tous les événements qui s'étaient succédés dans ma vie, et aussi de ceux qui s'étaient succédés dans mon cœur, car lorsqu'on a beaucoup changé, on est induit à supposer qu'on a plus longtemps vécu. Au cours de ces derniers mois de l'existence d'Albertine, me les avait fait paraître beaucoup plus longs qu'une année. Et maintenant, cet oubli de tant de choses, me séparant par des espaces vides, d'événements tout récents qu'il me faisait paraître anciens, puisque j'avais eu ce qu'on appelle le temps de les oublier, par son interpolation fragmentée, irrégulière au milieu de ma mémoire, comme une brume épaisse sur l'océan qui supprime les points de repère des choses, détraquait, disloquait mon sentiment des distances dans le temps, la rétrécie, ici distendue, et me faisait me croire tantôt beaucoup plus loin, tantôt beaucoup plus près des choses que je ne l'étais en réalité. Et, comme dans les nouveaux espaces, encore non parcourus, qui s'étendaient devant moi, il n'y aurait pas plus de traces de mon amour pour Albertine qu'il n'y en avait eu dans les temps perdus que je venais de traverser, de mon amour pour ma grand-mère. Ma vie m'a paru, offrant une succession de périodes dans lesquelles, après un certain intervalle, rien de ce qui soutenait la précédente ne subsistait plus dans celle qui la suivait, comme quelque chose de si dépourvu du support d'un moi individuel, identique et permanent, quelque chose de si inutile dans l'avenir et de si long dans le passé, que la mort pourrait aussi bien terminer le cours ici ou là sans nullement le conclure, que ces cours d'histoire de France, qu'en rhétorique on arrête indifféremment, selon la fantaisie des programmes ou des professeurs, à la Révolution de 1830, à celle de 1848, ou à la fin du Second Empire. Peut-être alors, la fatigue et la tristesse que je ressentais vinrent-elles moins d'avoir aimé inutilement ce que déjà j'oubliais que de commencer à me plaire avec de nouveaux vivants, de purs gens du monde, de simples amis des guermantes, si peu intéressants par eux-mêmes. Je me consolais peut-être plus aisément de constater que celle que j'avais aimée n'était plus, au bout d'un certain temps, qu'un pâle souvenir, que de retrouver en moi cette vaine activité qui nous fait perdre le temps à tapisser notre vie d'une végétation humaine vivace mais parasite, qui deviendra le néant aussi quand elle sera morte, qui déjà est étrangère à tout ce que nous avons connu, et à laquelle pourtant cherche à plaire notre sénilité bavarde, mélancolique et coquette. l'être nouveau, qui supporterait aisément de vivre sans Albertine, avait fait son apparition en moi, puisque j'avais pu parler d'elle chez madame de Guermantes en paroles affligées, sans souffrance profonde. Ces nouveaux « moi », qui devraient porter un autre nom que le précédent, leur venue possible à cause de leur indifférence à ce que j'aimais, m'avaient toujours épouvantée, jadis à propos de Gilberte, quand son père me disait que, si j'allais vivre en Océanie, je ne voudrais plus revenir. Tout récemment, quand j'avais lu, avec un tel serrement de cœur, le passage du roman de Bergotte, où il est question de ce personnage qui, séparé, par la vie, d'une femme qu'il avait adorée jeune homme, vieillard la rencontre sans plaisir, sans envie de la revoir. Or, au contraire, il m'apportait avec l'oubli une suppression presque complète de la souffrance, une possibilité de bien-être, cet être si redouté, si bienfaisant, et qui n'était autre qu'un de ces « moi » de rechange que la destinée tient en réserve pour nous, et que, sans plus écouter nos prières qu'un médecin clairvoyant et d'autant plus autoritaire, elle substitue malgré nous, par une intervention opportune, au « moi » vraiment très blessé. Ce rechange, au reste, elle l'accomplit de temps en temps, comme l'usure et la réfection des tissus, mais nous n'y prenons garde que si l'ancien « moi » contenait une grande douleur, un corps étranger et blessant, que nous nous étonnons de ne plus retrouver, dans notre émerveillement d'être devenu un autre, pour qui la souffrance de son prédécesseur n'est plus que la souffrance d'autrui. Celle dont on peut parler avec apitoiement, parce qu'on ne la ressent pas. Même cela nous est égal d'avoir passé par tant de souffrances, car nous ne nous rappelons que confusément les avoir souffertes. Il est possible que, de même, nos cauchemars, la nuit, soient effroyables. Mais au réveil, nous sommes une autre personne, qui ne se soucie guère que celle à qui elle succède est due à fuir en dormant devant des assassins. Sans doute, ce moi avait gardé quelque contact avec l'ancien. Comme un ami, indifférent à un deuil, en parle pourtant aux personnes présentes avec la tristesse convenable et retourne de temps en temps dans la chambre où le veuf, qui l'a chargé de recevoir pour lui, continue à faire entendre ses sanglots. J'en poussais encore quand je redevenais pour un moment l'ancienne amie d'Albertine, mais c'est dans un personnage nouveau que je tendais à passer tout entier. Ce n'est pas parce que les autres sont morts que notre affection pour eux s'affaiblit, c'est parce que nous mourons nous-mêmes. Albertine n'avait rien à reprocher à son ami. Celui qui en usurpait le nom n'en était que l'héritier. On ne peut être fidèle qu'à ce dont on se souvient. On ne se souvient que de ce qu'on a connu. Mon moi, nouveau, tandis qu'il grandissait à l'ombre de l'ancien, l'avait souvent entendu parler d'Albertine. À travers lui, à travers les récits qu'il en recueillait, il croyait la connaître, elle lui était sympathique, il l'aimait. Mais ce n'était qu'une tendresse de seconde main. Une autre personne, chez qui l'œuvre de l'oubli en ce qui concernait Albertine se fit probablement plus rapide à cette époque, et me permit par contre-coup de me rendre compte un peu plus tard d'un nouveau progrès que cette œuvre avait fait chez moi, et c'est là mon souvenir d'une seconde étape avant l'oubli définitif. Ce fut André. Je ne puis guère, en effet, ne pas donner l'oubli d'Albertine comme cause sinon unique, sinon même principale, au moins comme cause conditionnante et nécessaire, d'une conversation qu'André eut avec moi à peu près 6 mois après celle que j'ai rapportée, et où ses paroles furent si différentes de ce qu'elle m'avait dit la première fois. Je me rappelle que c'était dans ma chambre, parce qu'à ce moment-là, j'avais plaisir à avoir de demi-relations charnelles avec elle, à cause du côté collectif qu'avait eu au début et que reprenait maintenant mon amour pour les jeunes filles de la petite bande,
longtemps indivis entre elles, et un moment uniquement associé à la personne d'Albertine pendant les derniers mois qui avaient précédé et suivi sa mort. Nous étions dans ma chambre pour une autre raison encore, qui me permet de situer très exactement cette conversation. C'est que j'étais expulsée du reste de l'appartement, parce que c'était le jour de maman. Malgré que ce fût son jour, et après avoir hésité, maman était allée déjeuner chez Madame Sazerat, pensant que, comme Madame Sazerat savait toujours vous inviter avec des gens ennuyeux, elle pourrait, sans manquer aucun plaisir, rentrer tôt. Elle était, en effet, revenue à temps et sans regret, Madame Sazerat n'ayant eu chez elle que des gens assommants, que glaçait déjà la voix particulière qu'elle prenait quand elle avait du monde, ce que maman appelait sa voix du mercredi. Ma mère, du reste, l'aimait bien, la plaignait de son infortune, suite des fredaines de son père ruinées par la duchesse de X. Infortune qui la forçait à vivre presque toute l'année à Combray, avec quelques semaines chez sa cousine à Paris, et un grand voyage d'agrément tous les 10 ans. Je me rappelle que la veille, sur ma prière répétée depuis des mois, et parce que la princesse la réclamait toujours, maman était allée voir la princesse de Parme, qui, elle, ne faisait pas de visite et chez qui on se contentait d'habitude de s'inscrire, mais qui avait insisté pour que ma mère vînt la voir, puisque le protocole empêchait qu'elle vînt chez nous. Ma mère était revenue très mécontente. « Tu m'as fait faire un pas de clair, » me dit-elle. « La princesse de Parme m'a à peine dit bonjour. Elle s'est retournée vers les dames avec qui elle causait sans s'occuper de moi. » Et au bout de 10 minutes, comme elle ne m'avait pas adressé la parole, je suis partie, sans qu'elle me tendît même la main. J'étais très ennuyée. En revanche, devant la porte, en m'en allant, j'ai rencontré la duchesse de Guermantes, qui a été très aimable et qui m'a beaucoup parlé de toi. Quelle singulière idée tu as eue de lui parler d'Albertine. Elle m'a raconté que tu lui avais dit que sa mort avait été un tel chagrin pour toi. Je ne retournerai jamais chez la princesse de Parme. Tu m'as fait faire une bêtise. » Or, le lendemain, jour de ma mère, comme je l'ai dit, Andrée vint me voir. Elle n'avait pas grand temps, car elle devait aller chercher Gisèle, avec qui elle tenait beaucoup à dîner. « Je connais ses défauts, mais c'est tout de même ma meilleure amie et l'être pour qui j'ai le plus d'affection, » me dit-elle. Et elle parut même avoir quelque effroi à l'idée que je pourrais lui demander de dîner avec elle. Elle était avide des êtres, et un tiers qui la connaissait trop bien, comme moi, en l'empêchant de se livrer, l'empêchait du coup de goûter auprès d'eux un plaisir complet. Le souvenir d'Albertine était devenu chez moi si fragmentaire qu'il ne me causait plus de tristesse, et n'était plus qu'une transition à de nouveaux désirs, comme un accord qui prépare des changements d'harmonie. Et même cette idée de caprice sensuel et partagé étant écartée, en tant que j'étais encore fidèle au souvenir d'Albertine, j'étais plus heureux d'avoir auprès de moi Andrée que je ne l'aurais été d'avoir Albertine miraculeusement retrouvée. Car Andrée pouvait me dire plus de choses sur Albertine que ne m'en aurait dit Albertine elle-même. Or, les problèmes relatifs à Albertine restaient encore dans mon esprit, alors que ma tendresse pour elle, tant physique que morale, avait déjà disparu. Et mon désir de connaître sa vie, parce qu'il avait moins diminué, était maintenant comparativement plus grand que le besoin de sa présence. D'autre part, l'idée qu'une femme avait peut-être eu des relations avec Albertine ne me causait plus que le désir d'en avoir, moi aussi, avec cette femme. Je le dis à Andrée, tout en la caressant. Alors, sans chercher le moins du monde à mettre ses paroles d'accord avec celles d'il y avait quelques mois, Andrée me dit en souriant à demi, « Ah oui, mais vous êtes un homme !»
Aussi, nous ne pouvons pas faire ensemble tout à fait les mêmes choses que je faisais avec Albertine. Et soit qu'elle pensât que cela accroissait mon désir, dans l'espoir de confidence, je lui avais dit que j'aimerais avoir des relations avec une femme en ayant eu avec Albertine. Ou mon chagrin, ou peut-être détruisait un sentiment de supériorité sur elle, qu'elle pouvait croire que j'éprouvais d'avoir été le seul à entretenir des relations avec Albertine. Ah, nous avons passé toutes les deux de bonnes heures. Elle était si caressante, si passionnée. Du reste, ce n'était pas seulement avec moi qu'elle aimait prendre du plaisir. Elle avait rencontré chez Madame Verdurin un joli garçon, Morel. Tout de suite, il s'était compris. Il se chargeait, ayant d'elle la permission d'y prendre aussi son plaisir, car il aimait les petites novices, de lui en procurer. Sitôt qu'il les avait mises sur le mauvais chemin, il les laissait. Il se chargeait ainsi de plaire à de petites pêcheuses d'une plage éloignée, à de petites blanchisseuses, qui s'amourachaient d'un garçon, mais n'eussent pas répondu aux avances d'une jeune fille. Aussitôt que la petite était bien sous sa domination, il la faisait venir dans un endroit tout à fait sûr, où il la livrait à Albertine. Par peur de perdre Morel, qui s'y mêlait du reste, la petite obéissait toujours. Et d'ailleurs, elle le perdait tout de même, car, par peur des conséquences, et aussi parce qu'une ou deux fois lui suffisait, il filait en laissant une fausse adresse. Il eut une fois l'audace d'en mener une, ainsi qu'Albertine, dans une maison de femmes à Corléville, où quatre ou cinq la prirent ensemble ou successivement. C'était sa passion, comme c'était aussi celle d'Albertine. Mais Albertine avait, après, d'affreux remords. Je crois que chez vous, elle avait dompté sa passion et remettait de jour en jour de s'y livrer. Puis son amitié pour vous était si grande qu'elle avait des scrupules. Mais il était bien certain que si jamais elle vous quittait, elle recommencerait. Elle espérait que vous la sauveriez, que vous l'épouseriez. Au fond, elle sentait que c'était une espèce de folie criminelle, et je me suis souvent demandé si ce n'était pas après une chose comme cela, ayant amené un suicide dans une famille, qu'elle s'était elle-même tuée. Je dois avouer que, tout à fait au début de son séjour chez vous, elle n'avait pas entièrement renoncé à ses jeux avec moi. Il y avait des jours où elle semblait en avoir besoin, tellement qu'une fois, alors que c'eût été si facile dehors, elle ne se résigna pas à me dire au revoir avant de m'avoir mise auprès d'elle, chez vous. Nous n'eûmes pas de chance, nous avons failli être prises. Elle avait profité de ce que Françoise était descendue faire une course et que vous n'étiez pas rentré. Alors elle avait tout éteint pour que, quand vous ouvririez avec votre clé, vous perdiez un peu de temps avant de trouver le bouton. Et elle n'avait pas fermé la porte de sa chambre. Nous vous avons entendu monter. Je n'eus que le temps de m'arranger, de descendre. Précipitation bien inutile. Car par un hasard incroyable, vous aviez oublié votre clé et avez été obligé de sonner. Mais nous avons tout de même perdu la tête, de sorte que, pour cacher notre gêne, toutes les deux, sans avoir pu nous consulter, nous avions eu la même idée. Faire semblant de craindre l'odeur du seringa, que nous adorions au contraire. Vous rapportiez avec vous une longue branche de cet arbuste, ce qui me permit de détourner la tête et de cacher mon trouble. Cela ne m'empêcha pas de vous dire, avec une maladresse absurde, que peut-être Françoise était remontée et pourrait vous ouvrir, alors qu'une seconde avant, je venais de vous faire le mensonge que nous venions seulement de rentrer de promenade, et qu'à notre arrivée, Françoise n'était pas encore descendue et allait partir faire une course. Mais le malheur fut, croyant que vous aviez votre clé, d'éteindre la lumière, car nous eûmes peur qu'en remontant, vous ne la vissiez se rallumer, ou du moins nous hésitâmes trop. Et pendant trois nuits, Albertine ne put fermer l'œil, parce qu'elle avait tout le temps peur que vous n'ayez de la méfiance, et ne demandiez à Françoise pourquoi elle n'avait pas allumé avant de partir. Car Albertine vous craignait beaucoup, et par moments assurait que vous étiez fourbe, méchant, la détestant au fond.
Au bout de 3 jours, elle comprit à votre calme que vous n'aviez rien demandé à Françoise, et elle put retrouver le sommeil. Mais elle ne reprit plus ses relations avec moi, soit par peur, soit par remords, car elle prétendait vous aimer beaucoup. Ou bien aimait-elle quelqu'un d'autre? En tout cas, on n'a plus pu jamais parler de ce ringard devant elle sans qu'elle devint écarlate et passa la main sur sa figure en pensant cacher sa rougeur. Comme certains bonheurs, il y a certains malheurs qui viennent trop tard. Ils ne prennent pas en nous toute la grandeur qu'ils auraient eue quelque temps plus tôt. Tel le malheur qu'était pour moi la terrible révélation d'André. Sans doute, même quand de mauvaises nouvelles doivent nous attrister, il arrive que dans le divertissement, le jeu équilibré de la conversation, elles passent devant nous sans s'arrêter, et que nous, préoccupés de 1000 choses à répondre, transformés par le désir de plaire aux personnes présentes en quelqu'un d'autre, protégé pour quelques instants dans ce cycle nouveau contre les affections, les souffrances qu'il a quittées pour y entrer et qu'il retrouvera quand le court enchantement sera brisé, nous n'ayons pas le temps de les accueillir. Pourtant, si ces affections, ces souffrances sont trop prédominantes, nous n'entrons que distraits dans la zone d'un monde nouveau et momentané. Ou, trop fidèles à la souffrance, nous ne pouvons devenir autres. Et alors, les paroles se mettent immédiatement en rapport avec notre cœur qui n'est pas resté hors de jeu. Mais depuis quelque temps, les paroles concernant Albertine, comme un poison évaporé, n'avaient plus leur pouvoir toxique. Elles m'étaient déjà trop lointaines. Comme un promeneur voyant l'après-midi un croissant nuageux dans le ciel se dit « C'est cela l'immense lune. » Je me disais, comment cette vérité que j'ai tant cherchée, tant redoutée, c'est seulement ces quelques mots dits dans une conversation auxquels on ne peut même pas penser complètement parce qu'on n'est pas seul. Puis elle me prenait vraiment au dépourvu. Je m'étais beaucoup fatiguée avec André. Vraiment, une pareille vérité, j'aurais voulu avoir plus de force à lui consacrer. Elle me restait extérieure, mais c'est que je ne lui avais pas encore trouvé une place dans mon cœur. On voudrait que la vérité nous fût révélée par des signes nouveaux, non par une phrase pareille à celle qu'on s'était dite tant de fois. L'habitude de penser empêche parfois d'éprouver le réel, immunise contre lui, le fait paraître de la pensée encore. Il n'y a pas une idée qui ne porte en elle sa réfutation possible. Un mot, le mot contraire. En tout cas, si tout cela était vrai, quelle inutile vérité sur la vie d'une maîtresse qui n'est plus, remontant des profondeurs et apparaissant d'une fois que nous ne pouvons plus rien en faire. Alors, pensant sans doute à quelque autre que nous aimons maintenant et à l'égard de qui la même chose pourrait arriver, car de celle qu'on a oubliée, on ne se soucie plus. On se désole. On se dit « si elle vivait ». On se dit « si celle qui vit pouvait comprendre tout cela et que, quand elle sera morte, je saurai tout ce qu'elle me cache ». Mais c'est un cercle vicieux. Si j'avais pu faire qu'Albertine vécût, du même coup, j'eusse fait qu'André ne m'eût rien révélé. C'est la même chose que l'éternel « Vous verrez quand je ne vous aimerai plus » qui est si vrai et si absurde, puisque, en effet, on obtiendrait beaucoup si on n'aimait plus, mais qu'on ne se soucierait pas d'obtenir. C'est tout à fait la même chose, car la femme qu'on revoit quand on ne l'aime plus, si elle nous dit tout, c'est qu'en effet ce n'est plus elle ou que ce n'est plus vous. L'être qui aimait n'existe plus. Là aussi, il y a la mort qui a passé, a rendu tout aisé et tout inutile. Je faisais ces réflexions, me plaçant dans l'hypothèse où André était véridique, ce qui était possible, et amené à la sincérité envers moi précisément parce qu'elle avait maintenant des relations avec moi, par ce côté Saint-André-des-Champs qu'avait eu au début avec moi Albertine. Elle y était aidée dans ce cas par le fait qu'elle ne craignait plus Albertine, car la réalité des êtres ne survit pour nous que peu de temps après leur mort, et au bout de quelques années, ils sont comme ces dieux des religions abolies qu'on offense sans crainte parce qu'on a cessé de croire à leur existence. Mais qu'André ne crût plus à la réalité d'Albertine pouvait avoir pour effet qu'elle ne redouta plus, aussi bien que de trahir une vérité qu'elle avait promis de ne pas révéler, d'inventer un personnage qui calomniait rétrospectivement sa prétendue complice. Cette absence de crainte lui permettait-elle de révéler enfin, en me disant cela, la vérité, ou bien d'inventer un mensonge, si, pour quelque raison, elle me croyait plein de bonheur et d'orgueil et voulait me peiner? Peut-être avait-elle de l'irritation contre moi. Irritation suspendue tant qu'elle m'avait vu malheureux, inconsolé, parce que j'avais eu des relations avec Albertine et qu'elle m'enviait peut-être, croyant que je me jugeais à cause de cela plus favorisé qu'elle. Un avantage qu'elle n'avait peut-être pas obtenu, ni même souhaité. C'est ainsi que je l'avais souvent vu dire qu'ils avaient l'air très malades à des gens dont la bonne mine, et surtout la conscience qu'ils avaient de leur bonne mine, l'exaspérait, et dire, dans l'espoir de les fâcher, qu'elle-même allait très bien, ce qu'elle ne cessa de proclamer quand elle était le plus malade, jusqu'au jour où, dans le détachement de la mort, il ne lui soucia plus que les heureux allassent bien et sussent qu'elle-même se mourait. Mais ce jour-là était encore loin. Peut-être était-elle contre moi, je ne savais pour quelle raison, dans une de ses rages comme jadis elle en avait eu contre le jeune homme si savant dans les choses de sport, si ignorant du reste, que nous avions rencontré à Balbec et qui depuis vivait avec Rachel, et sur le compte de qui André se répandait en propos diffamatoires, souhaitant être poursuivi en dénonciation calomnieuse pour pouvoir articuler contre son père des faits déshonorants dont il n'aurait pu prouver la fausseté. Or, peut-être cette rage contre moi la reprenait seulement, ayant sans doute cessé quand elle me voyait si triste. En effet, cela même qu'elle avait, les yeux étincelants de rage, souhaiter déshonorer, tuer, faire condamner, fût-ce sur faux témoignage, si seulement elle les savait tristes, humiliés, elle ne leur voulait plus aucun mal, elle était prête à les combler de bienfaits. Car elle n'était pas foncièrement mauvaise, et si sa nature non apparente, un peu profonde, n'était pas la gentillesse qu'on croyait d'abord, d'après ses délicates attentions, mais plutôt l'envie et l'orgueil, sa troisième nature, plus profonde encore, la vraie, mais pas entièrement réalisée, tendait vers la bonté et l'amour du prochain. Seulement, comme tous les êtres qui, dans un certain état, en désirent un meilleur, mais, ne le connaissant que par le désir, ne comprennent pas que la première condition est de rompre avec le premier. Comme les neurasthéniques ou les morphinomanes qui voudraient bien être guéris, mais pourtant qu'on ne les priva pas de leur manie ou de leur morphine. Comme les cœurs religieux ou les esprits artistes attachés au monde qui souhaitent la solitude, mais veulent se la représenter pourtant comme n'impliquant pas un renoncement absolu à leur vie antérieure. André était prête à aimer toutes les créatures, mais à condition d'avoir réussi d'abord à ne pas se les représenter comme triomphantes, et pour cela de les avoir humiliées préalablement. Elle ne comprenait pas qu'il fallait aimer même les orgueilleux et vaincre leur orgueil par l'amour, et non par un plus puissant orgueil. Mais c'est qu'elle était comme les malades qui veulent la guérison par les moyens mêmes qui entretiennent la maladie, qu'ils aiment et qu'ils cesseraient aussitôt d'aimer s'ils les renonçaient. Mais on veut apprendre à nager et pourtant garder un pied à terre. En ce qui concerne le jeune sportif, neveu des Verdurin, que j'avais rencontré dans mes deux séjours à Balbec,
Il faut dire, accessoirement et par anticipation, que quelque temps après la visite d'André, visite dont le récit va être repris dans un instant, il arriva des faits qui causèrent une assez grande impression. D'abord, ce jeune homme, peut-être par souvenir d'Albertine, que je ne savais pas alors qu'il avait aimée, se fiança avec André et l'épousa, malgré le désespoir de Rachel, dont il ne tint aucun compte. André ne dit plus alors, c'est-à-dire quelques mois après la visite dont je parle, qu'il était un misérable, et je m'aperçus plus tard qu'elle n'avait dit qu'il l'était que parce qu'elle était folle de lui et qu'elle croyait qu'il ne voulait pas d'elle. Mais un autre fait me frappa davantage. Ce jeune homme fit représenter des petits sketchs, dans des décors et avec des costumes de lui, qui ont amené dans l'art contemporain une révolution au moins égale à celle accomplie par les ballets russes. Bref, les juges les plus autorisés considérèrent ses œuvres comme quelque chose de capital, presque des œuvres de génie. Et je pense d'ailleurs comme eux, ratifiant ainsi, à mon propre étonnement, l'ancienne opinion de Rachel. Les personnes qu'il avait connues à Balbec, attentif seulement à savoir si la coupe des vêtements des gens qu'il avait à fréquenter était élégante ou non, qu'il avait vu passer tout son temps au baccarat, aux courses, au golf ou au polo, qui savait que dans ses classes il avait toujours été un cancre et s'était même fait renvoyer du lycée. Pour ennuyer ses parents, il avait été habité 2 mois la grande maison de femme où monsieur de Charlus avait cru surprendre Morel. Pensèrent que peut-être ses œuvres étaient d'André, qui, par amour, voulait lui en laisser la gloire, ou que, plus probablement, il payait, avec sa grande fortune personnelle, que ses folies avaient seulement ébréché. Quelque professionnel génial et besogneux pour les faire. Ce genre de société riche, non décrassée par la fréquentation de l'aristocratie et n'ayant aucune idée de ce qu'est un artiste, lequel est seulement figuré pour eux, soit par un acteur qu'ils font venir débiter des monologues pour les fiançailles de leur fille, en lui remettant tout de suite son cachet discrètement dans un salon voisin, soit par un peintre, chez qui ils la font poser une fois qu'elle est mariée, avant les enfants et quand elle est encore à son avantage. Crois volontiers que tous les gens du monde qui écrivent, composent ou peignent font faire leurs œuvres, et paye pour avoir une réputation d'auteur, comme d'autres pour s'assurer un siège de député. Mais tout cela était faux, et ce jeune homme était bien l'auteur de ces œuvres admirables. Quand je le sus, je fus obligé d'hésiter entre diverses suppositions, ou bien il avait été, en effet, pendant de longues années, la brute épaisse qu'il paraissait, et quelques cataclysmes physiologiques avait éveillé en lui le génie assoupi, comme la belle au bois dormant, ou bien, à cette époque de sa rhétorique orageuse, de ses recalages au bachot, de ses grosses pertes de jeu de Balbec, de sa crainte de monter dans le tram avec des fidèles de sa tante Verdurin, à cause de leur vilain habillement, il était déjà un homme de génie, peut-être distrait de son génie, l'ayant laissé la clé sous la porte dans l'effervescence de passions juvéniles. Ou bien, même homme de génie déjà conscient, et dernier en classe, parce que, pendant que le professeur disait des banalités sur Cicéron, lui lisait Rimbaud ou Goethe. Certes, rien ne laissait soupçonner cette hypothèse quand je le rencontrai à Balbec, où ses préoccupations me parurent s'attacher uniquement à la correction des attelages et à la préparation des cocktails. Mais ce n'est pas encore une objection irréfutable. Il pouvait être très vaniteux, ce qui peut s'allier au génie, et chercher à briller de la manière qu'il savait propre à éblouir dans le monde où il vivait, et qui n'était nullement de prouver une connaissance approfondie des affinités électives, mais bien plutôt de conduire à 4. D'ailleurs, je ne suis pas sûr que plus tard, quand il fut devenu l'auteur de ces belles œuvres si originales, il eût beaucoup aimé, hors des théâtres où il était connu, à dire bonjour à quelqu'un qui n'aurait pas été en smoking,
comme les fidèles dans leur première manière, ce qui prouverait chez lui non de la bêtise, mais de la vanité, et même un certain sens pratique, une certaine clairvoyance à adapter sa vanité à la mentalité des imbéciles, à l'estime de qui il tenait, et pour lesquels le smoking brille peut-être d'un plus vif éclat que le regard d'un penseur. Qui sait si, vu du dehors, tel homme de talent, ou même un homme sans talent, mais aimant les choses de l'esprit, moi, par exemple, n'eût pas fait, à qui l'eût rencontré à Rivebelle, à l'hôtel de Balbec, ou sur la digue de Balbec, l'effet du plus parfait et prétentieux imbécile. Sans compter que pour Octave, les choses de l'art doivent être quelque chose de si intime, de vivant tellement dans les plus secrets replis de lui-même, qu'il n'eût sans doute pas eu l'idée d'en parler. Comme eût fait Saint-Loup, par exemple, pour qui les arts avaient le prestige que les attelages avaient pour Octave. Puis il pouvait avoir la passion du jeu, et on dit qu'il la gardait. Tout de même, si la piété qui fit revivre l'œuvre inconnue de Vinteuil est sortie du milieu si trouble de Montjouvain, je ne fus pas moins frappé de penser que les chefs-d'œuvre, peut-être les plus extraordinaires de notre époque, sont sortis non du concours général, d'une éducation modèle, académique, à la Brolier, mais de la fréquentation des pesages et des grands bars. En tout cas, à cette époque, à Balbec, les raisons qui faisaient désirer à moi de le connaître, à Albertine et à ses amis que je ne le connusse pas, étaient également étrangères à sa valeur et auraient pu seulement mettre en lumière l'éternel malentendu d'un intellectuel, représenté en l'espèce par moi, et des gens du monde, représentés par la petite bande, au sujet d'une personne mondaine, le jeune joueur de golf. Je ne pressentais nullement son talent, et son prestige à mes yeux, du même genre qu'autrefois celui de Madame Blatin, était d'être, quoi qu'elle prétendisse, l'ami de mes amis, et plus de leur bande que moi. D'autre part, Albertine et André, symbolisant en cela l'incapacité des gens du monde à porter un jugement valable sur les choses de l'esprit, et leur propension à s'attacher dans cet ordre à de faux semblants, non seulement n'étaient pas loin de me trouver stupide, parce que j'étais curieux d'un tel imbécile, mais s'étonnaient surtout que, joueur de golf pour joueur de golf, mon choix se fût justement porté sur le plus insignifiant. Si encore j'avais voulu me lier avec le jeune Gilbert de Belleuvre. En dehors du golf, c'était un garçon qui avait de la conversation, qui avait eu un accès site au concours général et faisait agréablement les vers. Or, il était, en réalité, plus bête qu'aucun. Ou alors, si mon but était de faire une étude pour un livre, Guissot, moi, qui était complètement fou, avait enlevé deux jeunes filles, était au moins un type curieux qui pouvait m'intéresser. Ces deux-là, on me les eût permis, mais l'autre, quel agrément pouvais-je lui trouver? C'était le type de la grande brute, de la brute épaisse. Pour revenir à la visite d'André, après la révélation qu'elle venait de me faire,